ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 6 avril 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver pour un autre midi à Ça vaut le détour, ce mercredi 6 avril 2016. Ça vaut le détour, c'est votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis à midi. Comme à l'habitude, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le mot-clic CVLD ou sur Twitter avec @canal_m. On termine cette première semaine en ce qui nous concerne du mois de l'autisme, le mois d'avril 2016, avec deux segments qui se pencheront sur cette réalité et deux autres segments où on vous propose des sorties culturelles. On reçoit Mme Sylvie Lauzon, directrice générale de la Fondation Les Petits Trésors, qui viendra nous parler du soutien que la Fondation offre auprès des familles avec des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme. Elle sera dans nos studios à 12h45. En deuxième partie d'émission, on découvre la Maison de la littérature de Québec, mon nouveau lieu préféré dans la vieille capitale. Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est un concept unique en Amérique du Nord, un lieu de création, d'animation et de diffusion voué à la littérature et à l'écriture. Pour découvrir la diversité de leur offre, on s'entretient avec Mme Dominique Bernard, responsable promotion, mise en marché et développement de public à la Maison de la littérature. On découvre aussi l'Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle, un organisme qui a pour mission d'aider les familles naturelles et les familles d'accueil à l'intégration des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. C'est surtout par les loisirs et les activités sociales et socioculturelles qu'ils y parviennent. On parlera justement de leur prochaine production, la pièce de théâtre « Meurtre au manoir », dont la comédienne Gabrielle Marion-Rivard fait partie de la distribution. On parlera avec Mme Lise Dondremont, animatrice des ateliers de théâtre et auteur et metteur en scène de la pièce. Mais tout d'abord, on ouvre l'émission avec un autre segment de notre série sur les camps. C'est le temps de l'année où les familles planifient leurs activités estivales. Le camp de jour ou le camp de vacances est souvent considéré dans les plans. Les familles dont un enfant a des besoins particuliers vont se tourner vers des camps spécialisés qui offrira le meilleur environnement adapté à leur enfant. Aujourd'hui, on met en lumière les services du camp Émergo, qui dès sa fondation en 1976, devenait le premier camp pouvant recevoir des personnes autistes ou avec un trouble envahissant du développement. Pour nous en parler davantage, j'accueille dans nos studios M. Pierre Ricard, directeur principal du camp Émergo. Bonjour M. Ricard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Au départ, Émergo, bon, la fondation en 1976, vous êtes dans votre 40e année
d'activité. Oui, effectivement.
Félicitations.
Oui. Merci beaucoup. Merci
pour
beaucoup.
Cette longévité. Au départ, un Mergo, c'est un camp. Comment a commencé cette aventure?
En fait, c'est des parents qui se sont mobilisés autour d'une organisation qui deviendra après la Fédération québécoise de l'autisme, qui ont décidé, qui ont évalué les besoins des parents de personnes autistes au niveau des répits, c'est-à-dire se donner du temps pour souffler. Mm-hmm. Un enfant autiste, c'est demandant, ça prend beaucoup d'énergie. Et en même temps, se dire, donner aussi du temps à la fratrie, donner du temps aussi au couple. Donc, ils se sont dit, bon, ben pourquoi on n'essaierait pas de mettre en place une forme de répit? C'est ce qu'ils ont fait il y a 40 ans de ça, effectivement. Oui.
Et donc, ça se poursuit aujourd'hui. Au début des années 90, il est arrivé ce qu'on appelle le répit scolaire. C'est un de vos services spécialisés que vous offrez. Pouvez-vous nous le décrire?
Oui, bien sûr. Au début, il y avait le répit était plus un répit estival, c'est-à-dire c'était un camp où l'été, des groupes de personnes autistes venaient avec des accompagnateurs. Au fur et à mesure, les accompagnateurs ont évalué aussi, on est beaucoup en lien avec ce qui se passe, hein, parce qu'eux aussi sont en lien avec les parents, aux accueils notamment, et ont évalué les besoins des parents et ont dit que ce serait peut-être intéressant de faire des fins de semaine de répit. Donc, c'est ce qui s'est mis en place. Donc, les répits scolaires, maintenant, c'est 21 fins de semaine par an. C'est de 3 à 5 répits plus longs. Donc, on a des répits 3 jours quand il y a des fêtes. On a aussi Noël, la semaine de relâche qu'on propose. Donc, c'est intéressant. Les répits scolaires sont définis aussi les groupes par âge et par niveau d'autonomie. Le spectre de l'autisme est très large. Donc, on essaie de travailler à ce niveau-là. On engage des accompagnateurs qui sont très créatifs. On a une équipe d'animation qui fait des thématiques, les pirates, le Seigneur des Anneaux, Tété Milou, etc. Et c'est ça. Donc, les parents, on les emmène, on les récupère le vendredi. On les emmène en autobus au camp qui est à Saint-Hippolyte, à 10 minutes de Saint-Jérôme.
Voilà, faut le dire, c'est à l'extérieur de Montréal.
Oui, c'est à l'extérieur de Montréal. Nous, on est un organisme provincial. C'est sûr que pour une fin de semaine, les gens qui habitent très, très loin de Montréal ou des Laurentides peuvent venir, mais bon, c'est moins facilitant pour eux. L'été, en revanche, il y a des gens d'un peu partout du Québec qui viennent. Donc, on les emmène en autobus et ils reviennent le dimanche après-midi.
Donc, ce répit scolaire est basé surtout sur le calendrier, justement, scolaire régulier
Exactement.
des jeunes à l'école. Vous offrez divers programmes de camps et
Oui.
chacun avec des distinctions et des mises en place d'activités. J'aimerais qu'on commence d'abord par parler du programme Adapt-à-tout. C'est
Oui,
ça, Adapt-à-tout, qui est
c'est ça, oui.
en partenariat avec un autre camp, le camp Mariste à Rawdon.
Exactement. Donc, Adapt-à-tout, c'est un programme qui est axé sur l'intégration. Donc, ce sont des jeunes de 6 à 14 ans qui ont une capacité de socialisation plus élevée, qui sont avec des accompagnateurs, mais mélangés dans des groupes réguliers. Donc, quand un enfant a un petit peu de malaise et moins à l'aise, on le prend, on s'éloigne et on revient après pour qu'il participe aux activités. Donc, c'est vraiment spécifique au niveau de l'intégration. Il y a des jumelages. Les ratios, c'est à peu près 1 pour 2, un accompagnateur pour 2 enfants. Donc, non, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui est un peu différent des autres programmes parce qu'on est vraiment dans un camp. Les enfants participent à toutes les activités, à différents degrés d'intensité, mais bon, on gère ça, nos accompagnateurs qui gèrent ça, donc c'est vraiment intéressant.
Et justement, même pour les jeunes du camp Mariste qui sont en contact avec d'autres jeunes qui ont un TSA, c'est là où est-ce qu'on peut être le plus sensibilisé finalement à cette réalité, où est-ce que les liens peuvent se créer, la compréhension est meilleure.
Effectivement, on est en plein là-dedans, effectivement. Des stigmatises, on ouvre les esprits, on comprend la différence. Non, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là.
Oui, vraiment, c'est vraiment dans une optique d'inclusion. Il y a aussi le programme Un rêve à réaliser, qui est pour les personnes autistes de haut niveau ou présentant un syndrome d'Asperger. Comment ça fonctionne? Et surtout, j'aimerais que vous nous disiez, quand on parle de personnes autistes à haut niveau, à quoi est-ce qu'on fait référence?
Les hauts niveaux, c'est au niveau, je dirais, de la socialisation, de l'hygiène personnelle, de la capacité d'autonomie
D'autonomie.
dans le quotidien. Donc, c'est ça. Un rêve à réaliser, je vous dirais, c'est plus une bande de copains qui partent ensemble dans un chalet l'été, qui se font à manger ensemble. Donc, les ratios, là, sont un peu plus du 1 pour 3. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment, en plus, on est au Camariste, un site magnifique. Et il y a beaucoup de socialisation, beaucoup de jeux. Il y a toujours aussi des activités qu'ils choisissent. C'est beaucoup plus participatif. C'est-à-dire que les jeunes sont beaucoup plus impliqués dans le déroulement des camps. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Il y a aussi le programme Émergence.
Oui, alors Émergence, ça, c'est notre plus gros programme, je vous dirais. Des ratios qui sont du 1 pour 1 ou du 2 pour 3. Émergence, ça commence juin, ça finit en août. Et c'est dégressif selon le groupe d'âge, dont les plus jeunes finissent plus tard. C'est des 11 nuitées, à peu près. On parle là de jeunes qui sont un peu moins autonomes, qui ont un peu plus besoin d'encadrement. Individuels, bien sûr, donc ils sont dans des groupes de 4 personnes, dépendant de l'âge. Et c'est ça. Et à travers ce émergence, on a aussi un autre programme, le programme IDFIX,
Allez-y, oui.
donc, qui est un peu plus spécifique. Là, on parle de jeunes qui ont un peu plus de difficultés au niveau des comportements, un peu plus de difficultés au niveau de la socialisation. Donc là, on est vraiment dans un ratio de 1 pour 1. Et quand on dit 1 pour 1, c'est dans l'accompagnement. Il faut savoir que l'été, par exemple, entre émergence et défixe, on a une trentaine de participants, mais on a 50 personnes, 50 accompagnateurs, parce qu'on a les veilleurs, on a l'équipe de gestion, on a l'équipe santé, on a les animateurs. Donc c'est vraiment tout un staff. Donc le ratio est beaucoup plus élevé. Parce qu'il y a des pauses aussi. Il faut faire des pauses parce que c'est très demandant aussi pour nos accompagnateurs. Hein.
Oui, tout à fait.
Donc les ratios sont beaucoup plus élevés. Mais dans l'accompagnement pur, on dirait on est dans du 1 pour 1.
Quand on veut s'inscrire au camp, peu importe le modèle qui nous conviendrait, comment on fait? Est-ce qu'il faut être membre d'une association? Est-ce qu'il faut être référé par un professionnel de la santé? Ou on peut, je pense à nos auditeurs
Oui,
peut-être
bien sûr.
qui viennent de découvrir ça, peuvent s'inscrire eux-mêmes.
Oui, appelez-nous. Appelez-nous. En fait, il y a un membership, c'est ça, c'est de 35 $ et qui donne accès à recevoir les inscriptions, les programmes, les dates, etc. Toutes les informations qui pourraient faciliter les personnes pour l'inscription. Donc, c'est ça, c'est un membership. Il faut savoir aussi que c'est premier arrivé, premier servi. Okay? Il n'y a pas de droit acquis par rapport à ça. Donc, les gens, on a beaucoup de demandes. Heureusement, chaque année, on revisite un petit peu nos programmes pour qu'il y ait le moins de listes d'attente. Donc, on essaie de faire pour le mieux, mais c'est ça.
Combien de membres est-ce que vous avez actuellement, si on parle en 2016?
On a toujours entre 200 et 230 membres, je dirais. Quelques chiffres, les répits estivaux, par exemple, on a 206 participants l'été pour à peu près 1660 nuitées. Donc c'est pas mal,
Oui.
c'est intéressant. Pour les répits scolaires, je vous dirais, autour... Ça dépend parce qu'on a pas mal de nuitées, de journées différentes, mais c'est à peu près 376 participants qui en profitent. Donc, non, c'est...
Ce sont des chiffres importants.
Oui, ce sont des chiffres importants. C'est pour ça que ça coûte cher aussi,
Oui, voilà, mais
l'encadrement.
c'est justement une des dernières questions que j'avais pour
Oui,
vous,
bien
Monsieur
sûr.
Ricard. Pour faire toutes ces activités, pour arriver à les réaliser, ça prend du financement. Comment vous faites pour vous maintenir à flot?
Alors, on travaille fort déjà. Pour commencer, je vous dirais, notre financement globalement, on essaie de se tenir à un tiers de financement gouvernemental, différents paliers gouvernementaux, fédéral, provincial. Un tiers, les parents, ce qu'on essaie de limiter, que ce soit un maximum, un tiers des parents, bien qu'on ait un programme. On part du principe aussi que toutes les personnes vont avoir accès à un répit indépendamment de leur revenu. Donc, on a un petit programme d'aide financière. Tout le monde a besoin de répit. Et un tiers de notre fondation qui, malheureusement, chaque année augmente un peu plus la demande car il y a une augmentation des coûts, une stagnation, je dirais, des revenus gouvernementaux, des subventions gouvernementales. Donc, notre fondation travaille très, très, très fort pour nous ramener autour de 450 000, 500 000 $ par an. Oui, c'est énorme.
C'est énorme et c'est un travail essentiel que vous effectuez. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci de nous avoir partagé ces services les services de répit Émergo, différentes formes de camps qui s'adressent aux jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme, aussi le trouble envahissant du développement. On en a peu parlé, on a mis l'accent plus sur l'autisme, mais c'est aussi des services que vous offrez aux familles et aux jeunes. Merci beaucoup. Pour avoir plus d'informations, on va sur servicederépitemergo.com, service au pluriel. On mettra le lien sur la page de l'émission. Pierre Ricard, vous êtes directeur principal du camp Émergo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Simon Kingsbury avec sa pièce Comédien tirée de son album Pêchez rien, une parution de 2015. La pièce tout à fait à propos pour présenter notre prochaine invitée à Ça vaut le détour. On s'entretient avec Madame Lise Dendremont, animatrice des ateliers de théâtre à l'Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle, mais surtout auteur et metteur en scène de la pièce Meurtre au manoir. Bonjour, Madame Dendremont.
Bonjour, Maxime.
Vous allez bien?
Oui, merci, merci.
Pouvez-vous d'abord nous résumer la mission de l'Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle?
Oui, c'est un organisme qui, à l'origine, était surtout une de loisirs et d'activités sociales. Mais depuis 2011, avec toutes les coupures qu'on connaît, ils offrent maintenant ce qu'ils appellent le maintien des acquis pour les personnes qui ont perdu leur travail ou qui ont été mises à la retraite vu leur âge. Alors, pour éviter que ces gens, ne sont pas jeunes nécessairement, se retrouvent isolés chez eux, ils ont parti des activités de jour, comme qu'on appelle maintien des acquis, pour les garder toujours en éveil, si on veut.
Oui, est-ce que c'est moins jeunes, donc, qui ont aussi ces activités dans ce nouveau volet développé depuis 5 ans? Est-ce que ce sont des personnes avec une déficience intellectuelle ou tout type de personnes?
Oh non, ce sont toujours des personnes avec des déficiences intellectuelles. On ne vise que cette clientèle-là chez nous, chez la VRDI.
Vous vous spécialisez là-dedans. Donc, quelle est votre clientèle? Est-ce qu'on a un portrait? Est-ce que vous pouvez dresser un portrait un peu de vos membres?
Tout dépendant des activités. Comme je vous dis, pour les activités de jour, tous les jours de la semaine, c'est surtout des gens plus âgés là, qui se retrouvent dans 30, 40, 50, 60 ans. Dans les activités de fin de semaine ou des soirées, c'est de 13 à 55 ans à peu près. Puis il y a des camps aussi de vacances l'été. Donc, ça touche aussi plus la clientèle un peu plus jeune, les camps de vacances.
Justement, qu'est-ce que vous offrez comme service aux camps de vacances?
Au camp de vacances, c'est un camp de jour, tout simplement. Ils ont toutes sortes de différentes activités. Comme dans tous les camps de vacances normaux, en fait, tu sais, ils ont du bricolage, des activités sportives. Ça, c'est dans le camp de jour de l'été. Sinon, il y a des activités tout le long de l'année là, qui s'offrent à la VRDI.
Donc, c'est vraiment diversifié, en fait. On va chercher une large brochette d'âge chez vos membres.
Oui, absolument. Ça concerne toute la clientèle qui vit avec un handicap intellectuel.
Madame Dendremont, la particularité de l'association, de cet organisme, c'est que votre vision de l'intégration passe particulièrement par les activités de loisirs. Comment est-ce que... Premièrement, donnez-nous quelques exemples d'activités qu'on peut réaliser sur place.
L'activité la plus populaire, je vous dirais, ce sont les quilles le samedi matin. Tous les samedis matins, il y a une équipe de bénévoles. Pas nécessairement des bénévoles. Il y a des bénévoles, mais il y a des jeunes aussi qui sont employés par la VRDI qui s'occupent d'amener cette clientèle-là aux quilles. Alors, ils sont nombreux, là. Ils sont presque une cinquantaine le samedi matin à aller jouer aux quilles. Et ça, c'est très bon pour eux parce qu'ils échangent entre eux, ils sont dans un lieu public, donc ils doivent apprendre les comportements qui se plient à cet endroit, les règlements et tout ça. Alors, c'est très bon pour eux. Et sinon, c'est au local de la VRDI. On a à chaque semaine, il y a le vendredi soir qui est film, karaoké, danse, une danse par mois, un film par mois, une activité spéciale à chaque vendredi qui, elles aussi, ces activités-là, sont toujours encadrées par des jeunes. Alors, c'est comme plus une amitié qui se développe entre les jeunes. Ils ne sont pas là pour les garder. Ils sont vraiment là pour leur faire faire des activités, pour leur montrer des comportements normaux en activité, en loisir, etc.
Tout à fait, c'est des relations d'égal à égal.
Exactement, et c'est le vendredi soir. Le jeudi soir, il y a la chorale. Moi, c'est le mercredi soir et le lundi, nous avons le théâtre.
Oui, justement, le théâtre, les ateliers théâtre, vous êtes animatrice, vous êtes aussi auteur et metteur en scène. Il y a peut-être un peu de reverb, je ne sais pas si vous pouvez baisser.
En attente. C'est ma ligne en attente qui vient de sonner deux fois.
Okay.
Mais ça ne devrait pas se reproduire, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je n'ai pas pensé à essayer de l'enlever.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, cette prochaine production dont vous êtes responsable, c'est une pièce de théâtre, les ateliers de théâtre de la troupe de théâtre Les Démasqués. Mm-hmm. Donc, c'est la partie qui vous concerne directement et c'est votre gros projet actuellement.
Absolument. Ça nous tient très occupés plusieurs heures par semaine. Oui, parce qu'on va présenter la pièce Meurtre au manoir. On a nos pratiques tous les mercredis soirs. Et on a quand même, on travaille depuis le mois de septembre sur cette production-là.
Qui va être présentée le 23 et le 24 avril à la Polybelle de Belleuil.
Exactement.
Madame Dendremont, comment est-ce que ce thème du mystère s'est imposé à vous?
C'est sûr qu'à chaque année, on change de pièce, hein, de thème. On va dans toutes sortes d'univers. Et là, c'est Gabrielle Marion Rivard, vous la connaissez sûrement, du film Gabrielle, qui est une jeune fille qu'on connaît bien parce qu'elle fait partie de notre ville et qu'elle a déjà joué au théâtre avec nous déjà 3 ans, il y a longtemps quand même, il y a quelques années, mais elle jouait avec nous avant. Et puis, c'est elle qui, l'année dernière, me dit « En tout cas, si tu fais une pièce avec une inspectrice avec un accent anglais, moi, j'aimerais ça y aller. » Alors, je me suis dit « Bon, ben là, regarde, pourquoi pas en profiter puis faire une Miss Maple?
» Oui, une Miss Marple à la Agatha Christie.
Et c'est ça. Mais moi, elle s'appelle Miss Maple. On n'a pas gardé son nom de Marple. Mais c'est ça qui m'a inspirée. Et aussi l'univers que je trouvais bien intéressant de Downton Abbey, les tuxedos, les cupies, ce manoir, cette ambiance. Alors, tous nos serviteurs ont des cupies et c'est vraiment très beau à voir.
Et justement, il y a une popularité du côté des séries même qui mettent en scène ce type de mystère ou d'ambiance à l'époque manoir.
Mm-hmm.
C'est une comédie.
Oui.
Vous faites surtout des comédies. Est-ce que ça convient mieux aux comédiens? Est-ce que c'est une demande des comédiens?
C'est pas nécessairement une demande des comédiens. C'est l'instigatrice des démasqués de l'époque, Madame Anne Tremblay, qui, elle, était portée plus sur les comédies. Elle faisait du Molière, tu sais, des adaptations à l'époque. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on a fait Les Misérables. Bon, c'est sûr que Les Misérables, ça portait un peu moins à rire. Mais les gens riaient quand même. Mais nous, on l'a fait de façon à ce que ce soit quand même correct. Mais c'est que lorsqu'on fait une pièce qui est vraiment plus sombre, mais les jeunes, nos jeunes handicapés, nos jeunes comédiens, souvent, ils vont avoir des réactions, ils vont être portés à improviser et ça va porter à rire.
Mm-hmm.
Mais à ce moment-là, c'est pas fin. Tu sais, dans le sens que pour eux, ils aiment pas ça parce qu'ils se disent, hey, moi, je suis pas supposée faire rire, là, je suis grave. Alors, nous, on a opté pour toujours le rire d'avance. Alors, comme ça, nos jeunes, on leur dit, plus les gens vont rire, plus ça veut dire que tu as bien réussi ton rôle.
Tout à fait. Donc, c'est moins déstabilisant aussi pour les comédiens qui sont sur scène. Est-ce que ce sont tous vos comédiens sont des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle?
Non. Cette année, nous sommes... ils sont 21 sur scène. C'est quand même beaucoup de comédiens. Et il y en a 7 qui n'ont pas de handicap. C'est-à-dire, j'ai 6 piliers, on appelle ça des piliers, qui sont des comédiens. J'en ai 3 qui jouent à Chambly, au théâtre de Chambly. J'en ai un parent, un autre c'est un ami, et j'en ai une qui fait juste un petit clin d'œil là, cette année. Donc, elle vient pas chaque semaine, mais ils sont 6 chaque semaine à venir jouer avec eux, leur aider à jouer. On appelle ça aussi les sauver des fois sur scène parce qu'ils ne se rappellent plus de leur texte.
Mm-hmm.
Mais je vous dirais que d'année en année, c'est souvent nos jeunes qui vont sauver nos piliers parce qu'eux, ils viennent mêler, ils ne s'en rappellent plus. Ils sont déstabilisés des fois par de l'improvisation. Mais on a rarement à les sauver. Je pense qu'ils sont de mieux en mieux chaque année.
On sent qu'il semble avoir une bonne cohésion dans votre troupe. Rapidement, pouvez-vous nous dire, si on veut se procurer des billets pour le spectacle qui est à la fin du mois d'avril, comment on procède?
Vous allez à la VRDI. Vous avez à la VRDI, à l'association même, au numéro de téléphone 467-8644. Il y a des billets en vente là sur place. Chaque comédien a aussi des billets en vente, évidemment. Et vous aurez des billets en vente à la Polybelle la journée même du spectacle. Il en reste quand même toujours là, à la porte.
Donc, on invite nos auditeurs à aller vous encourager dans votre pièce le 23 et le 24 avril. Lise Dendremont, vous êtes animatrice des ateliers de théâtre à l'Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle et auteur et metteur en scène de la pièce Meurtre au manoir. On vous souhaite un bon succès.
Merci et n'oubliez pas que tous les profits s'en vont à la VRDI. Nous sommes tous des bénévoles à notre... dans notre théâtre.
Raison de plus pour vous supporter dans cette belle activité.
Absolument.
Un grand merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Bienvenue. Au revoir.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour, on entame cette deuxième partie d'émission. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le mot-clic CVLD ou sur Twitter, @canal_M. J'en parlais en début d'émission, ce lieu que j'ai visité récemment dans la vieille capitale, la Maison de la littérature à Québec, qui est maintenant mon nouveau lieu culturel préféré. J'ai au bout du fil la responsable promotion, mise en marché et développement de public à la Maison de la littérature, l'Institut canadien de Québec, Madame Dominique Bernard. Bonjour.
Bonjour, Maxime.
Donc, on va faire un retour, en fait, sur l'histoire, si on veut, de cette Maison de la littérature, car elle a ouvert ses portes très récemment cet automne.
Elle a ouvert le 8 octobre dernier, après des années de transformation, parce qu'auparavant, c'était la Bibliothèque du Vieux-Québec, donc ce qui a été en fonction très, 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 très longtemps. L'Institut canadien gère les bibliothèques depuis 1848.
Donc, on sent qu'il y a quand même une bonne histoire de la littérature et des mots que vous amenez avec vous. La Maison de la littérature, c'est un concept qui est inusité, qui propose vraiment un lieu multidisciplinaire avec les mots à leur cœur.
C'est un lieu unique. On en est très fiers. La Maison de la littérature, c'est une scène littéraire. C'est une résidence d'auteurs, un studio de création, un studio de BD et une magnifique bibliothèque dans une église reconvertie.
Donc, c'est multifonctionnel. Je voulais aborder cet aspect de l'accessibilité. J'ai eu l'occasion de la visiter et découvert que les lieux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Si vous pouviez nous décrire les lieux physiques pour le bienfait de nos auditeurs.
En fait, il y a une entrée, accès universel, qui est du côté de la rue Saint-Angèle. Il y a un vestiaire qui est, si ce n'est pas fait, qui est accessible pour les personnes qui sont en fauteuil. Par la suite, la bibliothèque et la Maison de la littérature, en fait, tout est sur 3 étages, mais il y a un ascenseur. Que puis-je vous dire d'autre? Il y a une exposition, qui est une exposition sur le patrimoine littéraire, et ça raconte un peu l'histoire du Québec par sa littérature. Et cette exposition-là est complètement accessible à défaut d'un petit panneau ou deux qui vont être, on m'a dit, corrigés d'ici la fin avril. Cette exposition-là, c'est à la fois des citations, des des extraits de romans, de théâtre, des extraits de films, des chansons, des planches de bandes dessinées, des rencontres qui durent une vingtaine de minutes. Il y a 5 rencontres qui ont été enregistrées. Pour ça, on s'assoit toujours avec les audioguides et on écoute les rencontres entre des générations ou entre des gens de même génération, mais sur la liberté dans la littérature. Et il y a 4 écrans où on peut vraiment pitonner sur l'histoire de la littérature. On commence où les Patriotes et on finit à Paul à Québec. Donc, vraiment, c'est à la fois ce qui a marqué la vie politique, la vie littéraire, puis comment tout ça s'imbrique un dans l'autre. Si on prend, par exemple, le féminisme ou la contre-culture, le refus global, tout ça est lié un peu à la littérature, beaucoup à l'histoire, mm-hmm. et tout ça se mixe.
Et justement, c'est cette exposition « En toute liberté » dont vous parlez, qui prend différentes formes, donc qui est accessible aussi à différents publics.
Voilà.
Et vous avez aussi, au rez-de-chaussée, on trouve aussi un espace spectacle.
On a un espace spectacle avec toute une programmation qui est disponible sur le site de la Maison de la littérature et sur Facebook, on fait tout le temps des rappels sur ce qui s'en vient. Puis quand on s'était rencontrés, on avait parlé du spectacle « Fuck tout ». Je ne sais pas si vous souhaitez que j'en parle.
Oui, allez-y.
Le spectacle « Fuck tout » est un spectacle de Mathieu Campagna et Catherine Dorion. Elle est une auteure engagée et poète. Il est musicien. Et ils seront ici 3 soirs, le 5, le 6 et le 7 mai, pour nous faire un spectacle complètement dans le noir. Puis quand on s'est parlé de ça, vous et moi, vous m'aviez dit que c'était une formule qui rejoignait vraiment toutes les personnes, sans lien avec un possible handicap.
Tout à fait. Cette idée de présenter un spectacle de poésie dans la noirceur, ce ne sera pas la première fois. Vous avez déjà reçu d'autres productions
aussi.
Oui,
on a fait une autre pendant le festival de EdSec en février et c'était Rizone qui nous était arrivé avec cette proposition-là. Mathieu Campagna était aussi mêlé à ce spectacle-là. Donc lui, comme musicien, je pense qu'il trouve une essence dans l'idée de faire ça d'une façon, directe, sans aucun artifice. Et ce n'est pas que de la poésie. Hein. C'est des textes de blog aussi. Ils ont été pigés sur une forme de je veux dire défoulement, mais je ne veux pas dire défoulement, sur une espèce de cri du cœur. Le fuck tout, c'est un cri du cœur pour sortir de la société de consommation dans laquelle on est, que ce ne soit pas que ça. Donc, ça va sans aucun doute prendre la forme de la poésie parce qu'elle est poète, mais elle est aussi auteure engagée et elle s'était déjà présentée en politique, donc c'est une fille qui est engagée tout court.
Donc, ça va être intéressant à découvrir et justement, même pour les gens qui ont leur vision, c'est une autre manière d'aborder le spectacle et d'aborder les mots qu'on est souvent habitué de lire.
Oui, on est très heureux de ça parce que la Maison de la littérature fait des propositions d'événements littéraires qui sont inusités. Samedi dernier, on avait un bal littéraire. Le bal littéraire, c'était 5 auteurs, 2 Français, 3 Québécois, qui pendant 24 heures préparaient un spectacle et c'était des chansons et des extraits de textes qu'ils avaient écrits pendant cette coulée-là. Et rendu au samedi soir, boule disco, extrait de musique. Donc, il racontait une histoire, puis entre chaque bout d'histoire, il y avait 10 chansons pour danser. Tout le monde se levait, venait danser, et recommençait un bout d'histoire, tout le monde se levait, venait danser. Donc, ça, c'était un bal littéraire. Donc, c'est ça qu'on aime ici, présenter des formules qui sont inusitées et qui mettent la littérature vivante.
Et qui sont diversifiées. Il faut le dire aussi, cet espace spectacle, il est accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Et d'ailleurs, l'accessibilité, financière pour ces spectacles-là, car il faut le dire, la Maison de la littérature, l'entrée est libre, mais lorsque vous recevez ces spectacles, il y a un coût qui est lié au spectacle, mais vous permettez à l'accompagnateur l'entrée gratuite.
Et ce, depuis l'ouverture. Donc oui, on est très heureux de ça. Notre personne qui est responsable d'accueil travaillait auparavant dans un musée. Donc quand on a ouvert, elle nous est arrivée avec cette proposition-là qu'on a tous acceptée d'emblée.
Donc, ça permet vraiment un plus grand accès aux activités aux personnes en situation de handicap. J'aimerais qu'on se penche sur les prochaines activités qui aura lieu à la Maison de la littérature. Il y aura entre autres le Festival Québec en toutes lettres.
Le festival est à l'automne, mais bien avant, la semaine prochaine, c'est le Salon du livre à Québec.
Oui, c'est vrai. Nous, à Montréal, c'est au mois de décembre, mais effectivement, à Québec, c'est au mois d'avril.
Du 13 au 16 avril. Et dans le cadre du Salon du livre, on a une programmation qui est complémentaire. Donc, le 13 avril, on a un Lab BD. C'est un spectacle avec des musiciens, des BDistes. C'est magnifique, c'est magique, c'est drôle. Les gars et filles sont complètement fous. Ils dessinent, il y a un thème, il y a un musicien qui est aussi une espèce de bonimenteur qui raconte ce que les personnes sont en train de dessiner. Mais comme ils ne se sont pas parlé avant, quand la caméra s'approche, c'est peut-être pas nécessairement ça. Donc, notre bonimenteur est obligé tout le temps d'adapter son histoire. Par exemple, il parle d'un gars, un gars, un gars. Finalement, la caméra s'approche et réalise que c'était une fille. Fait qu'il faut qu'il change son histoire en cours de route. Mm-hmm. C'est fantastiquement drôle. Le 14, c'est Verbeux les chimères. Donc, ça, c'est toujours une rencontre. Ça va être notre troisième ou quatrième. C'est une série, Verbeux les chimères. Donc, c'est entre un poète, un BDiste et un romancier ou une romancière. Et donc, à chaque fois, c'est un thème différent. On est en lien avec le Salon du livre. Le 16, on reçoit Michel Rabagliati, auteur de BD connu. Mm-hmm. Et les quatre soirs du Salon du livre, soit du 13 au 16 à 21h30, c'est jazz et poésie. Donc, il y a un trio de jazz avec de nombreux auteurs qui viennent faire des extraits sur de la musique. Donc, quatre soirs de fête pendant le Salon du livre ici. On a un peu plus tard un spectacle qui s'appelle Duo Camaro, qui est le 30 avril. Et ça, semble-t-il que c'est un mélange de spoken word, de rock de garage. Il était venu il y a une couple d'années au Festival de poésie, le mois de la poésie qui a lieu à Québec en mars. Et ils avaient soulevé la baraque. Donc, on est heureux de les recevoir, nous, évidemment, pour la première fois. C'est toujours la première fois avec la Maison de la littérature. Et pour l'été, ce sera une pause de programmation. On a toute une programmation d'événements qui sont aussi beaucoup plus, je dirais, universitaires. On a des colloques, des journées d'études, des tables rondes. Vous trouvez tout ça sur le site. Et ensuite, ce sera le Festival Québec en toutes lettres qui aura lieu en octobre prochain. Et le Festival Québec en toutes lettres, c'est la 7e édition. Donc, c'est un mélange de spectacles, de rencontres, d'événements. Et cette année, ce sera sous le thème du polar. C'est une édition noire.
Mm-hmm. Une édition de mystère. Ça, mm-hmm. ça rentre aussi encore dans notre émission où on venait tout juste de parler d'une pièce de théâtre intitulée Meurtre au manoir. On reste dans cette même thématique. On reste dans cette même thématique. Madame Bernard, est-ce que vous avez, on a parlé de la programmation, sur place, évidemment, c'est une bibliothèque aussi. On peut emprunter des documents, des livres. Mm-hmm. Est-ce que vous avez un service de livres audio? Avez-vous une offre de ce côté?
On a un service de livres audio. La Maison de la littérature, elle se spécialise dans la collection québécoise. Mais comme elle est en réseau avec les 25 bibliothèques de la ville de Québec, si la collection ici n'est pas suffisante, les gens peuvent toujours commander ce qu'ils veulent et passer ici les chercher. Donc, si vous aviez déjà en tête un livre audio que vous souhaitiez avoir, on a aussi des séries, des films, mais ici, c'est les films et les séries québécoise. Mm-hmm. Mais il y a moyen de se faire venir. Donc, c'est ça, c'est le service en réseau. Puis, on n'a pas parlé des cabinets de travail.
Oui, tout
mais
à fait,
on
Lizzie.
A quatre cabinets de travail qui sont accessibles. Et donc, ces cabinets-là sont des lieux tout fenestrés qui nous permettent d'avoir une vue. On est au plein cœur du Vieux-Québec, qui nous permettent d'avoir une vue sur les magnifiques et vieux édifices autour, de laisser entrer le soleil, la lumière, vraiment de façon très, très, très inspirante. Et c'est des cabinets qui sont de 4 à... On a des cabinets de 4 personnes, 6 personnes, et on a une beaucoup plus grande salle de réunion. Et le principe des bibliothèques, c'est la gratuité. Donc, on peut réserver pour des périodes d'une demi-journée, une journée, pour venir travailler, étudier, écrire à la bibliothèque.
Merci beaucoup, Dominique Bernard, de nous avoir présenté la Maison de la littérature, cet espace de rencontre entre les citoyens, les écrivains et les créateurs en art littéraire. On vous souhaite une bonne lancée. Vous êtes encore dans votre première année d'activité. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui de vos activités.
Merci et au plaisir.
Paresseuse, paresseuse. naissance, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
Pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance. De savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère.
C'est la ouate.
Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate. C'est la ouate. C'est la ouate. C'est la ouate. C'est la ouate.
Elle déchire les pages de tous les dictionnaires. Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Amour par terre et somnifère. En d'autres mots, elle se laisse faire. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère.
C'est la ouate.
Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les
c'est la ouate de Caroline Leb, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, L-O-E-B. Je vous invite à la découvrir. Moi, en tout cas, c'est une découverte aujourd'hui, même si la chanson date de 1986 sur l'album de Barclay à Barclay. On fait toujours des découvertes, parfois c'est de mon époque, parfois moins. On termine notre troisième émission cette semaine, donc on termine cette première semaine du mois de l'autisme en 2016. Le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme au Québec. J'ai avec moi Sylvie Lauzon, qui est directrice de la Fondation Les Petits Trésors, associée à l'hôpital Rivière-des-Prairies, qui a entre autres cette expertise s'est développée depuis plusieurs années sur les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme.
En fait, on en reçoit des centaines et même, je dirais, des milliers par année parce qu'il y a une clinique en autisme. On fait donc de l'évaluation, on fait des suivis en autisme à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Et on a aussi un centre de recherche en autisme. Et ce centre de recherche-là est très performant. C'est le docteur Motron, entre autres, qui en est la figure de proue. Mais je te dirais qu'il y a le docteur Baudouin-Forgeot d'Arc. C'est des noms que vous connaissez pas, mais si vous punchez ces noms-là dans des moteurs de recherche, vous allez voir que il y a des choses qui sortent. Isabelle Soulière, qui, elle, fait de la recherche sur les autistes dans des écoles primaires et qui s'est rendu compte, en fait, à travers ses recherches, que même les petits autistes qui ne parlent pas du tout n'ont pas tous des déficiences intellectuelles. En fait, il y a la déficience intellectuelle d'un côté, t'as l'autisme de l'autre. Il arrive que des autistes soient aussi déficients intellectuels, mais de plus en plus, on se rend compte que même s'ils ne parlent pas, il n'y en a pas de déficience intellectuelle. Alors, ce que ça veut dire, moi, je trouve que c'est génial. Ce que ça veut dire, c'est que si on trouvent les moyens d'entrer en contact avec ces enfants-là, parce que les autistes ont une manière différente d'entrer en contact avec les gens. Bien, peut-être qu'ils vont pouvoir se développer, peut-être qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils aiment, peut-être qu'ils vont pouvoir déployer leurs ailes et devenir des citoyens engagés et fiers de réaliser quelque chose.
Mm-hmm. En fait, je vais reprendre un peu vos mots, c'est pas peut-être qu'ils vont pouvoir se développer, c'est plutôt ils vont pouvoir développer leur potentiel.
Oui, c'est en plein
ça. Ce qu'il faut trouver, c'est le meilleur contexte pour permettre à ces enfants-là, à ces jeunes-là aussi, qui vont devenir des adultes. Votre fils, vous-même, a un trouble du spectre de l'autisme. Il a 18 ans.
Mm-hmm.
C'est il est sur le point, il est déjà impliqué dans la société, mais maintenant, sa vie adulte commence.
Il commence à se déployer. C'est une toute autre vie. J'ai deux enfants. J'en ai un de 25 ans qui n'est pas autiste, qui mène une vie donc... Bon, moi, j'ai pas de problème à utiliser le mot normal, anormal. Pour moi, il y a pas de saveur à ce mot-là. Alors, lui, il mène sa vie. Il est autonome. Il est parti. Il vole de ses propres ailes. Il a sa carrière. Et ça va bien. Et il y a Marc-Antoine qui, lui, va falloir l'inventer, la réinventer encore plus sa vie. À 18 ans, le mien, il n'y a pas de déficience intellectuelle, Marc-Antoine. Il y a plusieurs diagnostics. À ce moment-ci, il est encore à l'école secondaire, un petit peu de retard, bien sûr, mais il fait des stages en entreprise. Il y a des entreprises qui prennent ces enfants-là lorsqu'ils sont en école en stage et donc il est en train d'apprendre à travailler. Je n'aurais peut-être pas imaginer ça il y a 2-3 ans. Et quand le manager ou la personne qui s'occupe de lui sur son lieu de travail me dit « On aime beaucoup Marc-Antoine, il travaille bien. » Là, je leur dis « Est-ce que vous avez adapté la tâche? Est-ce que vous lui en demandez moins qu'à un autre?
Mm-hmm. »
Non. Et ça, là, moi, ça me rend... Ça me soulage, en fait. Et Marc-Antoine, il est fier de lui. Il est fier de lui parce qu'il réalise quelque chose. Et entre vous et moi, là, quand on a 17-18 ans, ça arrive souvent qu'on travaille dans un restaurant, dans la cuisine. Moi, j'ai fait ça, tout le monde a fait ça. Alors, il a l'impression d'être un petit peu comme tous les autres.
Tout à fait.
Tout en demeurant lui-même. Alors, moi, là, et c'est pas toujours le cas. Hein. L'arrivée à l'âge adulte, pour la plupart des autistes, est pas nécessairement évidente parce qu'il faut que tu trouves un milieu de travail qui s'accommode, qui s'adapte à toi, à tes difficultés ou à tes différences. Il faut que ensuite peut-être tu trouves un endroit où vivre si tu peux pas vivre avec tes parents.
Mm-hmm.
La quête de l'autonomie n'est pas nécessairement toujours très facile et on travaille beaucoup avec les petits autistes, on les accompagne beaucoup quand ils sont petits et plus ils avancent en âge, plus ils sont à l'école secondaire, là, tu as de moins en moins de support. Alors que c'est là vraiment où on devrait avoir du support à tous les âges. Là,
tout
vraiment.
À fait. Et même à partir de 21 ans, souvent le support diminue, les soutiens diminuent.
Moi, j'ai vu des autistes, là, des jeunes là, intelligents là, qui, à 21 ans, tout à coup, se retrouvent à se bercer dans le sous-sol chez leurs parents parce qu'il n'y a rien d'autre qui s'offre à eux. Alors, tout ce qu'ils ont fait comme progrès, ça s'arrête peut-être là. C'est dramatique et on se prive en tant que société de tout le potentiel et de ce qu'ils ont à apporter. C'est peut-être pas dans la performance qu'ils vont amener quelque chose, mais il y a tellement d'autres affaires qui comptent dans la vie et dont on se prive parce qu'on ne les accueille pas. Mais je dois avouer que ce n'est pas toujours facile d'accueillir une personne autiste, mais on apprend tellement à le faire.
Justement, quand on parle d'accompagnement des jeunes enfants, aussi des adolescents autistes, parce que c'est ce que la Fondation Les Petits Trésors fait.
On supporte l'hôpital qui, elle, offre des soins et fait de la recherche dans le domaine. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. On fait de la recherche. On a le docteur Motron, entre autres, fait de l'imagerie cérébrale. Donc, on regarde ce qui s'allume dans le cerveau des autistes quand ils aiment quelque chose. Il y a des sphères, il y a des bouts du cerveau qui s'allument. Donc, on peut découvrir ce qu'ils aiment, même s'ils sont pas capables d'en parler. Toute la perception, toute l'idée autour de l'autisme à l'hôpital, c'est que l'autisme, c'est une autre forme d'intelligence.
Mm-hmm.
Et c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille. Donc, on se dit, pourquoi les entraîner à être comme les autres, ce que beaucoup de thérapies proposent, plutôt développons leurs forces et travaillons à partir de leurs forces. Alors, ça demande au départ peut-être un plus grand investissement parce que les forces qu'ils ont n'apparaissent pas nécessairement par magie. Il faut des fois plonger. Tu sais, avoir un enfant autiste, c'est un parcours du combattant. D'abord, bon, tu t'en rends compte habituellement dans le dans les eaux de 2 à 4 ans. Là, tu te mets sur des listes d'attente pour être évalué. Il y a ensuite des listes d'attente pour obtenir des soins. Il y a toujours, toujours, toujours des embûches. Et même encore aujourd'hui, moi, je dirais avec mon fils qui a 18 ans, il y a des embûches. Il faut constamment que tu te battes. Alors, c'est pas nécessairement très évident, mais si vous il y a beaucoup de choses qui sont aussi proposées aux familles, ça c'est clair. Mm-hmm. Il faut toujours faire preuve. C'est pas évident de choisir dans ce domaine-là. Comme parent, t'as toujours envie. En fait, t'espères toujours au fond de toi, même si je suis quelqu'un de quand même relativement rationnel. Je le sais que mon fils va être autiste jusqu'à sa mort.
Tout à fait, parce que c'est un état. Hein? C'est pas quelque chose que c'est pas une maladie
non.
qu'il faut guérir. C'est un état à comprendre et à apprivoiser oui. pour oui. savoir comment réaliser notre potentiel.
Si tu stimules. C'est sûr qu'il va y avoir un développement, puis même dans certains cas, un développement très important. Mais c'est une bataille constante et, c'est un parcours du combattant. Et je sais qu'il va être autiste jusqu'à la fin de ses jours, donc c'est inquiétant de voir là, ce qu'il y a devant lui, parce que lui, il a un plus long bout de vie encore que moi devant lui. Alors, c'est toutes ces questions-là. Quand tu es un parent d'enfant autiste ou d'un enfant différent, je te dirais, c'est pas simple. C'est deux vies. Tu sais, j'ai pu le voir avec mon plus vieux qui, lui, est complètement, tu sais, c'est sûr, c'est mon enfant. S'il y a une difficulté, je vais être là, mais c'est pas du tout la même chose. Là. L'autonomie ne sera jamais probablement la même, mm-hmm. mais je pense qu'à travers chacun leur potentiel, ils peuvent se développer au maximum, et c'est ce que j'espère pour tous les enfants autistes. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'il y a un mois de l'autisme. C'est pour ça que le gouvernement investit. Pas assez, même si l'autisme demeure aujourd'hui une vedette parmi tout le bouquet des maladies ou des états pédopsychiatriques. Là, tout ce qui s'attaque aux enfants, nous, à l'hôpital, on fait des maladies mentales. C'est clair, l'autisme n'est pas une maladie mentale, mais comme c'est dans le cerveau,
c'est un
pédopsychiatre qui s'occupe de ça, alors c'est suivi au même endroit. Mais c'est pas évident. Alors, c'est pour ça qu'on a un beau mois de l'autisme encore.
C'est essentiel, justement, d'en parler. Vous nous avez amené aujourd'hui des documents qui seront publiés dans les prochaines semaines.
Oui. En fait, on va le rendre public. Je vous parlais tantôt du groupe de recherche de l'hôpital Rivière-des-Prairies qui s'appelle le groupe de recherche en neurosciences cognitives de l'autisme de Montréal. Ce groupe de chercheurs-là, ils sont à peu près 7-8. C'est vraiment dans leur domaine des sommités. Ces gens-là sont invités, sont plus connus ailleurs sur la planète qu'au Québec. C'est toujours un petit peu comme ça. Et donc, ils font beaucoup de recherches. Et c'est fascinant parce que le docteur Motron, entre autres, est en train d'évaluer de nouvelles façons d'enseigner aux autistes, ou en tout cas de nouvelles façons pour intéresser les autistes à l'apprentissage. Et il se passe dans ces laboratoires-là des choses fascinantes. Et là, ce que j'ai entre les mains, d'ailleurs, c'est pas encore paru, c'est une espèce de magazine qui s'appelle Sur le spectre, qui va être publié deux fois par année. Et ce sont justement les chercheurs ou les chercheurs boursiers, les étudiants là, de ces gens-là, qui publient, qui vulgarisent les résultats de leurs études. Et c'est fascinant, parce que encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui cause l'autisme. Si on parle de génétique, je pense qu'on est à l'heure actuelle en train d'étudier de 100 à 200 gènes. Donc, ce n'est pas la question, on trouve le gène, c'est fini. Je pense que ça ne sera pas possible dans ce cas-là. On parle aussi, d'environnement. Il y a plein de pistes qui sont explorées. On n'a pas de réponse. C'est que moi, personnellement, en tant que maman, j'ai décidé d'oublier. Cherchez quand vous trouverez, vous me le direz. Moi, je vais m'occuper plutôt d'essayer de faire avancer mon fils, de lui permettre de se développer, de lui permettre de trouver ce qu'il aime faire. Et surtout, j'espère qu'il va être heureux, parce qu'une grande difficulté, je ne suis pas dans ses chaussures, là, mais un autiste qui n'a pas de déficience intellectuelle voit bien comment ça se passe dans le monde autour de lui. Ils sont très conscients, ils voient.
Tout à fait.
Et ils voient bien aussi qu'ils ne peuvent pas, dans tous les cas, faire comme tout le monde. Alors, ce n'est pas évident pour ces jeunes-là, pour ces petits, pour ces jeunes et pour ces jeunes adultes, de trouver leur place et d'être heureux à leur place. Et j'ose espérer qu'avec la Fondation, le support qu'on donne à l'hôpital, toute la recherche qui se fait chez nous et ailleurs, qu'on va leur permettre de se trouver et d'être heureux. C'est mon souhait le plus cher.
Je n'en doute absolument pas que vous contribuez à ce bonheur des jeunes autistes et de leurs familles. Merci beaucoup, Sylvie Lauzon, directrice générale de la Fondation Les Petits Trésors. C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Je remercie mes invités, Sylvie Lauzon, Dominique Bernard de la Maison de la littérature, Lise Dendremont pour la pièce Meurtre au manoir. Et on avait commencé l'émission avec Pierre Ricard du camp Émergo. Je remercie mon équipe technique, Recherche médias sociaux, Christian Campagna, mise en onde Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.